Bonsoir, vous êtes sur l'émission Une heure en Palestine, émission hebdomadaire du mercredi de 18 à 19h et qui est reprogrammée le lundi. L'émission de ce soir est assumée par Brigitte, moi-même, de l'association Palestine 13, branche locale de l'association France-Palestine Solidarité. Vous pouvez nous envoyer des mails sur asso.palestine13@gmail.com. Vous pouvez aussi suivre nos actualités sur notre site et demander à recevoir la newsletter du vendredi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Claude Lefort. Bonjour Jean-Claude.
Bonsoir.
Voilà.
Vous allez bien ?
Merci. Alors, c'est un peu spécial aujourd'hui parce que Jean-Claude Lefort est à Paris alors que nous sommes à Marseille. Donc l'entretien va se faire par téléphone aujourd'hui et non en présentiel.
Alors, vous avez de la chance.
Voilà. Donc, nous l'accueillons pour une émission en grande partie consacrée à l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Pour ceux qui nous écoutent régulièrement, Salah n'est pas un inconnu, malheureusement, ai-je envie de dire. Tant nous aurions préféré que sa vie soit un long fleuve tranquille lui permettant de vivre une vie normale dans son pays et avec ses proches. Mais nous savons que rien n'est jamais normal pour les Palestiniens et Salah est emblématique de ce qu'ils vivent. Pourquoi inviter Jean-Claude aujourd'hui ? Certes, vous avez été élu député communiste du Val-de-Marne de 88 à 2007. En mai 2009, vous devenez président de l'association France-Palestine Solidarité. Mais surtout, vous êtes le coordinateur du comité national de soutien à Salah Hamouri et son beau-père, puisque votre fille Elsa a épousé Salah et ils sont parents de deux enfants. Votre présence est donc tout particulièrement légitime parmi nous ce soir. Alors pourquoi parler spécialement aujourd'hui de Salah, que nous évoquons régulièrement et depuis de longues années ? Depuis mars 2022, Salah, avocat franco-palestinien, défenseur des droits de l'homme, est en détention administrative dans une prison israélienne, sans charge ni procès. Donc c'est de cette situation ubuesque à répétition pour lui, difficile à comprendre pour nombre de nos auditeurs, que nous aimerions nous entretenir durant cette émission. Donc Jean-Claude, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter Salah, qui il est, où il a grandi, quels ont été ses engagements, sa formation ?
Oui, bien sûr.
Alors, à vous.
Salah Hamouri, donc, est né à Jérusalem, Est.
Oui.
Je serai amené à préciser sans doute plus tard pourquoi je dis Est. D'un papa palestinien et d'une maman française originaire de Bourg-en-Bresse, un peu au nord de Marseille, comme vous le savez.
Oui.
Et donc, du fait de sa situation, de cette naissance, des conditions de cette naissance, Salah est théoriquement, et je m'expliquerai pourquoi je dis théoriquement plus tard, franco-palestinien. Salah donc est né en avril 85 à Jérusalem, où il a grandi, et naturellement où il a subi d'emblée et vécu d'emblée les conditions de l'annexion de cette ville par l'occupant israélien. Parce que, comme on sait, comme le savent sans aucun doute vos auditeurs, Jérusalem, selon le droit international, est constituée de deux parties, Jérusalem-Ouest égale Israël et Jérusalem-Est égale Palestine. Selon le droit.
Selon le droit, mais pas dans la réalité.
Mais dans les faits, évidemment, la partie Est, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement a été occupée en 67, mais annexée en 1980. Et donc Donc il a eu à subir assez vite les conditions de cette occupation-annexion. Et d'ailleurs, très tôt, il avait 16 ans, tandis qu'il était en faculté où il suivait des cours pour faire la sociologie. Il a été une première fois arrêté pour 6 mois de détention administrative déjà, parce qu'il distribuait des tracts pour ses camarades étudiants comme lui. 6 mois.
Oui, on reviendra un peu plus tard sur ce qu'est la détention administrative.
Oui. Ensuite, il a été relâché, il a poursuivi ses études, et puis une nouvelle fois en 2011, il a été arrêté en détention administrative pour 4 mois, tandis qu'il se trouvait chez des amis à Bethléem, et que l'armée israélienne cherchait l'ami principal qui invitait les autres à une soirée. Il est embarqué avec tout le monde, il a fait 4 mois de prison comme étant un ami de la personne recherchée. Ensuite de quoi, en 2003, il a été arrêté cette fois-ci de manière plus significative, puisqu'ils ont arrêté un checkpoint, et puis conduit dans un centre d'interrogatoire extrêmement dur, et où là, finalement, purger une peine égale à 7 ans, parce que les autorités israéliennes déclaraient que ce Salah avait l'intention d'attenter à la vie d'un rabbin ultra-conservateur par ailleurs, Yosef Obadiah, qui est aujourd'hui décédé. C'est donc 7 ans de prison, cette fois-ci avec un jugement qui est intervenu au bout de 3 ans de détention.
Oui, je crois qu'il a été arrêté en 2005 et le jugement n'est intervenu qu'en 2008.
Exactement.
Voilà. Est-ce que peut-être qu'on peut tout de suite dire que ces arrestations, ces jugements relèvent toujours de tribunaux militaires et pas civils?
Les Palestiniens, par définition, enfin je veux dire par définition, puis ils sont occupés, ne procèdent en aucun cas de tribunaux civils, mais bien évidemment de tribunaux militaires. Qui, quand ils arrêtent quelqu'un, outre bien c'est la détention administrative, on y reviendra peut-être, sans doute, sur les conditions de ce qu'elle représente, ou c'est la détention pure et simple, puisque 99,5% des peines demandées sont accomplies, sont réalisées par les tribunaux militaires. Donc il a à subir là 7 ans d'emprisonnement pour des motifs absolument fallacieux, qui d'ailleurs ont amené, quand il était aux affaires, ministre des Affaires étrangères, en 2011, peu de temps avant sa libération, le ministre des Affaires étrangères français Alain Juppé, a déclaré que ce dossier était vide. Le dossier de jugement était vide concernant Salah Hamouri.
Oui, parce qu'il n'y a jamais eu de preuve formelle comme quoi il prévoyait d'assassiner quelqu'un.
Voilà. Et donc, si vous voulez, il a été mis en prison sur la base d'un chantage, outre que les accusations étaient farfelues et complètement loufoques, sur la base aussi d'un chantage. Ou bien tu reconnais et tu prends 7 ans, ou bien tu reconnais pas et tu prends 14 ans. Et donc, évidemment, en bonne logique, on comprendra qu'il ait choisi de prendre 7 ans, ce qu'on appelle faussement un plaidé coupable, parce que la vraie traduction consiste à dire que c'est un arrangement.
Oui, c'est sûr. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de prisonniers, de Palestiniens qui sont incarcérés, qui n'ont pas beaucoup d'autres choix que de choisir ce chantage.
En général, ils mettent la barre entre deux, et puis forcément que c'est la barre la moins élevée qu'on choisit, quoi, ce qui est assez logique. Hein.
Tout à fait.
Voilà. Donc, c'est à cette occasion-là que j'ai fait connaissance de l'existence de Salah Hamouri. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, j'étais président de l'association France-Palestine Solidarité.
Oui.
Et un matin, j'ouvre mon ordinateur, comme tous les jours, et je vois un message d'une dame, Annick Denise Hamouri, me signalant le cas d'un franco-palestinien en prison depuis près de 3 ans. j'avais jamais entendu parler de ça. Personne en France ne connaissait cette situation. Après vérification, naturellement, j'ai vu qu'effectivement, nous avions un compatriote en prison. Ce qui a fait réagir Mme Amoury, c'était le fait suivant, c'est qu'à la même époque, il y avait un franco-israélien, un dénommé Gilad Shalit,
oui,
qui avait été kidnappé par le Hamas et qui était retenu, on va dire, à Gaza ou quelque part d'autre. On m'envoie des SMS, ça doit faire des petits glings, excusez-moi. Et le président de l'époque, la République française de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait immédiatement demandé publiquement et avec force la libération immédiate de Gilad Shalit. Et les parents de Salah s'étaient retournés vers les autorités françaises sur place, à savoir le consulat général de France à Jérusalem, pour signaler, pour demander qu'une action soit faite et que...
Et qu'il n'y ait pas de poids de mesure, on demande la libération d'un prisonnier israélien, mais on ne se soucie pas d'un prisonnier palestinien et franco-palestinien.
Non, pas d'un prisonnier, d'un militaire israélien, à la différence étudiant franco-palestinien. Voilà. Donc c'est à cette occasion-là que nous avons eu à connaître du cas de Salah Amoury. Et donc évidemment, il était impossible pour nous de laisser les choses en l'état, et nous avons organisé de manière assez consistante un comité de soutien qui a connu un large soutien pour le coup dans notre pays pour exiger sa libération. Nous l'avons obtenu finalement à l'occasion de l'échange de Gilad Shalit contre 1027 prisonniers palestiniens qui s'est réalisé en deux fois, 500 une première fois et 527 la deuxième fois en décembre 2011. C'est là que Salah Amoury est sorti.
Oui, de façon à peine anticipée, puisque c'était 7 ans et qu'il avait été emprisonné en 2005.
On lui a fait gagner 3 mois.
Bon, oui, voilà.
Mais quand on est en prison, 3 mois, croyez-moi que ça compte beaucoup. Bon,
oui.
Voilà.
Oui.
Donc voilà la situation de ce jeune palestinien, franco-palestinien, qui d'emblée donc, a affaire avec ce qu'il y a de plus dur, c'est-à-dire une pression, une humiliation, des arrestations, par une jeunesse qu'on veut briser à tout prix.
Et en plus, une jeunesse de Jérusalem-Est qui est particulièrement dans le viseur d'Israël.
Surtout parce qu'il habite Jérusalem-Est et qu'il faut que cette partie de la ville, qui est donc réputée être palestinienne en droit, doit être évacué au maximum de ses habitants afin de créer une situation d'hégémonie absolue de l'autre côté.
Et ce n'est pas simplement des idées. J'étais personnellement avec un petit groupe à Jérusalem encore au mois d'octobre dernier et je n'y étais plus retournée depuis 4 ou 5 ans. Et c'est évident, l'emprise israélienne sur Jérusalem-Est est encore beaucoup, beaucoup plus visible qu'il y a quelques années. Donc c'est une marche forcée qui avance malheureusement de façon très efficace.
Oui, efficace, sans doute un mot efficace pour les Israéliens.
Ah, exactement, oui.
Voilà, donc le jeune Salah, voilà, j'en ai décrit quelques aspects. C'est donc un jeune palestinien, franco-palestinien, qui vit d'emblée l'injustice de l'occupation et qui d'emblée se heurte à une force occupante qui ne néglige pas de tenter de le casser autant qu'il est possible.
Mais qui d'emblée choisit aussi la résistance. Enfin, d'emblée, c'est quelqu'un qui affirme aussi que sa vie, elle doit se faire à Jérusalem, qu'elle doit se faire en Palestine.
C'est sûr que s'il n'était pas hostile à l'occupation, il ne serait pas en prison. Ça tombe sous le sens. C'est bien sûr parce qu'il est opposé, et légitimement opposé comme nous le sommes, à cette occupation, comme nous sommes opposés à toutes les occupations qui peuvent exister par-delà le monde, c'est pour cette raison, naturellement, qu'il est dans le viseur, d'autant plus qu'il est de Jérusalem.
Et voilà. Oui.
Donc il est libéré, et puis, ils font, vous savez, il y a une tradition là-bas, quand un prisonnier est libéré, ils font une fête. Et puis, moi, ils demandent de venir, et malheureusement, moi, je ne peux pas y aller, parce que j'étais sur un bateau qui voulait aller à Gaza, Et j'ai été arrêté dans les eaux internationales par la marine militaire israélienne. Et j'étais interdit 10 ans d'entrer en Palestine.
C'était en 2010, ça, non? Je ne sais plus la date exacte par là, oui.
Oui, enfin, ça fait 2011 exactement.
2011, voilà. Oui.
11, puisque c'est terminé en 2021.
Oui.
En juillet 2021. Donc, je ne peux pas y aller. Et je demande à ma fille, puisqu'elle est née en décembre, si elle veut que je lui fasse ce cadeau d'anniversaire, en quelque sorte, de me représenter, entre guillemets, sur place, ce qu'elle accepte. Mmh. C'est là qu'elle fait connaissance tout simple, hein, avec Salah et la famille, et puis ses amis, etc. Elle revient. Et puis nous organisons, parce que Salah veut absolument remercier les gens qui l'ont soutenu en France, et puis aussi faire connaître la situation des prisonniers palestiniens. Nous organisons, durant un mois, en deux fois, une tournée assez forte en France, puisqu'on a fait 40 000 km en un mois. Je ne sais pas si vous voyez.
Nous l'avions reçu à Marseille, dans les quartiers nord, dans un centre social. C'est une étape qui avait beaucoup marqué les Marseillais présents.
Et c'est à cette occasion, si vous voulez, qu'avec ma fille, ils ont fait plus ample connaissance, si j'ose dire, jusqu'au point de se marier en mai 2014. Mmh. En mai 2014. Et ils vivaient donc à Jérusalem tous les deux. Et ils ont conçu un premier enfant.
Parce que je crois qu'elle avait pu avoir un poste au consulat de France, je crois, non?
Non,
pas vraiment.
Elle travaillait à l'Institut français pour le Proche-Orient.
D'accord, oui, Institut français.
Qui est un institut qui procède au sens large du terme de la diplomatie française, mais vraiment au sens très large.
C'est pas le consulat. Oui.
C'est pas un instrument diplomatique, hein, au sens direct des mots. Okay.
Mais enfin, disons qu'elle était là-bas légalement, avec un contrat et...
Oui, elle était là-bas légalement. Elle avait un visa de service. C'est pas un visa diplomatique, mais c'est plus qu'un visa de tourisme. C'était un visa valable un an, renouvelable, etc., etc. Et à la fin de l'année 2015, il décide, elle était enceinte de 6 mois, de venir en France pour passer les fêtes de fin d'année avec moi, puis avec leurs amis ici. Et puis au retour, en janvier 2016, donc elle est arrêtée
à l'aéroport
de Ben Gurion à Tel Aviv, et on lui supprime d'emblée le visa qu'on lui avait donné, le visa de service dont j'ai parlé à l'instant, qu'on lui avait donné. Elle est emprisonnée pendant 3 jours et elle est expulsée pour 10 ans du territoire. Mmh. Et je la récupère en 1000 morceaux, vous imaginez la situation.
Et donc on peut préciser que depuis donc janvier 2016, elle n'a plus jamais pu, elle n'a jamais pu revenir à Jérusalem où elle vivait légalement avec son mari.
Bah, si vous voulez, quand vous êtes expulsé pendant 10 ans, c'est 10 ans. C'est pas 3 mois, c'est 10 ans. Voilà. C'est comme ça là-bas.
Alors peut-être que sur cet épisode de 2007, épisode dramatique pour leur vie de couple et de leur vie familiale, nous allons faire une petite pause. Et donc Jean-Claude Lefort a choisi lui-même les deux pauses musicales. Donc nous allons commencer par écouter Imagine de John Lennon. Est-ce que c'est, vous voulez dire un petit mot sur pourquoi vous avez fait ce choix?
Oh bah écoutez, c'est parce que d'abord la chanson est très belle. Enfin pour moi évidemment. Mais aussi le contenu de la chanson est très beau, et c'est un peu idéaliste un maximum, mais il faut quand même penser comme ça, je pense, avoir des étoiles plein la tête. Enfin, il dit à un moment donné que s'il n'y avait pas de frontières, il n'y aurait pas de pays qui domine les autres. Donc c'est un clin d'œil assez direct à la situation palestinienne.
Très bien. Voilà, donc on écoute Imagine
de John Lennon.
De John Lennon. Sky.
imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday.
Voilà, donc après cette magnifique chanson de John Lennon, nous reprenons notre entretien avec Jean-Claude Lefort pour évoquer la situation de Salah Hamouri, avocat oui. franco-palestinien. Donc rebonjour Jean-Claude, puisque nous sommes bonjour. Par téléphone. Voilà, alors nous allons continuer un peu chronologiquement. C'est peut-être un peu simpliste comme façon d'aborder les choses, mais je crois que c'est important pour souligner l'acharnement que subit Salah depuis son adolescence. Et donc, je crois que c'est important de continuer un peu chronologiquement. Nous nous étions arrêtés juste avant la pause, en janvier 2016, moment où sa femme est renvoyée de l'aéroport de Ben Gurion à Tel Aviv, en France, avec une interdiction du territoire israélien d'une durée de 10 ans. Donc, est-ce qu'on peut un peu poursuivre ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est un peu passé entre 2016 et puis 2022, où on sait qu'il est de nouveau incarcéré ?
Bah, écoutez, déjà, là, il y avait une indication précise des intentions israéliennes qui signifiait deux choses. La première, c'est que, et ça va dans le sens de ce que nous disions précédemment, à savoir la politique d'épuration ethnique de Jérusalem-Est qui est menée par Israël, ça voulait dire, premièrement, que l'enfant ne naîtrait pas à Jérusalem, oui. qu'il ne serait pas jérusalémite, quelque chose de considérable. Et la deuxième chose que ça voulait dire clairement à Salah, eh bien écoute, maintenant, après t'avoir tellement mis en prison, tellement provoqué de mille manières, s'il te plaît, va en France, ta famille est là-bas. Donc, plutôt que de t'expulser, prends la décision toi-même de partir en France, ce que naturellement il a refusé avec le soutien absolu de sa femme. C'était donc déjà là une première des étapes dans ce calvaire, si j'ose dire, d'une indication à la volonté de répression donc, qu'il subissait, qui était violente, et qui était bien sûr psychologique, qui était rajoutée une dimension affective lourde, puisque ta femme, ton enfant, un petit garçon, habite en France, il suffit que tu ailles là-bas.
Et tous tes problèmes cesseront.
Et tu vivras paisiblement, tranquillement, et tu ne seras plus là pour réclamer la liberté pour le peuple palestinien. Et donc, la vie était pour eux une vie complètement... compliqué parce que Salah faisait des allers-retours en quelque sorte pour voir sa famille. Il assistait à l'accouchement du petit, puis il venait fréquemment pour voir sa famille. Mais enfin, vous voyez, c'est déjà un exercice compliqué, même avec les moyens modernes de communication. Une photo de son père derrière un téléphone, c'est pas pareil qu'une présence physique et quotidienne pour un enfant et pour sa femme, naturellement, ça va sans dire. Donc voilà, c'était déjà une signification d'une lourdeur de volonté abjecte concernant cet homme qui était devenu donc un homme et concernant aussi cette famille qui était donc ma famille. À partir de cette situation, dès lors qu'il refusait, eh bien Israël a continué à multiplier la maltraitance vis-à-vis de Salah.
Et je crois qu'en 2017, il est de nouveau placé en détention administrative, il me semble.
Oui, mais il y a eu d'autres événements. Par exemple, quand il vivait à Jérusalem, Salah avait choisi de changer de voie d'études et il avait choisi de devenir avocat. Et pour poursuivre les cours, il était obligé d'aller dans une université de Beer Zahit, près de Ramallah. Et par exemple, pour montrer l'acharnement jusqu'où il va, ils lui ont interdit à un moment donné, au nom de la sécurité d'Israël, ils lui ont interdit d'aller en Cisjordanie. Est-ce que vous voyez un peu le caractère énorme et cynique des autorités israéliennes qui lui interdisent d'aller en Palestine, en quelque sorte, au nom de la sécurité d'Israël?
Ouais.
Bon, c'est quand même quelque chose d'effarant, quoi, d'effarant, cynique et même sadique.
Oui, tout à fait.
Et donc, effectivement, après ce mariage et ces allers-retours entre Jérusalem et Paris, ils l'ont arrêté une quatrième fois pour le placer, encore une fois, en détention administrative pendant 13 mois. Alors là, il faut peut-être dire, puisque nous en parlons depuis le départ de la détention administrative, dire que la détention administrative, ça consiste en quoi? Ça consiste en un ordre militaire qui met un individu palestinien en prison sans motif et sans jugement. C'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi vous êtes en prison, puisque vous êtes en prison sur la base, dixit, d'un dossier secret. Donc, par définition, il est impossible d'avoir un procès équitable, puisque vous n'avez pas accès aux accusations éventuelles qui sont portées contre vous.
Et en plus, on ne sait pas pour combien de temps, puisque ce mode de détention est renouvelable indéfiniment.
Voilà, donc c'est selon les cas, parfois c'est 6 mois, puis renouvelé 6 mois. Il y en a qui ont fait des années en prison de cette manière, en détention administrative. Il faut savoir qu'actuellement, il y a à peu près 700 prisonniers, enfin palestiniens qui sont en détention administrative sous ce mode, quoi. Où je te mets en prison, je te dis pas pourquoi, tais-toi, voilà. Donc le caractère massif de recours à la détention administrative indique clairement qu'il s'agit d'un arbitraire total. Et absolument contraire au droit international, bien évidemment, ça va aussi sans dire sur ce chapitre-là. Et donc, il y a même un cas assez effroyable où un prisonnier en détention administrative est prévenu 2-3 jours à l'avance, c'est ainsi qu'ils font, quoi, pour dire, tu sors ce dimanche, par exemple, et le dimanche en question, sa famille l'attendait à la sortie de la prison. Et le prisonnier est sorti. Et un gardien est sorti après le prisonnier, qui était en train d'embrasser sa famille. Il lui dit, attends, on s'est trompé, tu continues, on te remet encore 6 mois.
Bon. Non, c'est du sadisme total.
C'est effroyable la situation. Donc il y est pour 13 mois, une nouvelle fois, en détention administrative, 13 mois. Encore une fois, avec toujours susurré à ses oreilles, de manière claire et explicite, mais va en France. Il sort au bout de ses 13 mois et il évidemment revient pour revoir femme et enfant. Et en juin, 2020, c'était en pleine crise Covid, pour voyager, il est obligé d'aller à un centre de dépistage Covid pour pouvoir montrer que 48 heures avant, il n'a pas la Covid. Pour pouvoir voyager, c'était une règle à bord des avions israéliens, mais enfin c'était aussi pour d'autres compagnies évidemment.
Oui.
Et donc il va au centre de dépistage et il est arrêté pour une semaine, avec le billet d'avion dans la poche. Et donc au bout d'une semaine, il faut que la famille rachète un billet, etc. Et il finit par venir après, quoi. C'est assez incroyable. Nous sommes donc en 2020 et à la fin de l'été 2020, en septembre 2020 exactement, la ministre de l'Intérieur de l'époque, une dénommée Ayelet Shaked, décide de lui retirer sa carte de résident de Jérusalem. Alors là, ça mérite aussi,
puisqu'on
a parlé tout à l'heure de quelque chose à propos de Jérusalem-Est.
Oui, il faut parler du statut spécial des Palestiniens à Jérusalem-Est. Oui.
Voilà, si vous voulez, parce que c'est assez incompréhensible pour nous Français, quoi. Mm. Alors, donc, on répète qu'en droit international, en droit, Jérusalem-Est est théoriquement palestinienne. En fait, elle est israélienne. Tant et si bien que les Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est ne sont ni citoyens israéliens, ni citoyens palestiniens. Je dis bien, ni citoyens palestiniens, ni citoyens israéliens. En stricto sensu, ils sont apatrides. Mm. Ils n'ont en tout et pour tout, comme élément pour voyager ou se déplacer, que ce qu'on appelle une carte de résident de Jérusalem. Laquelle carte n'est délivré par les autorités israéliennes que si vous justifiez une présence permanente. Comment ? Bah, par la fourniture de votre fiche de loyer, de téléphone, de gaz, que sais-je, etc. Et cette carte est renouvelée de manière assez fréquente, toujours en fournissant naturellement des preuves indiquant le caractère permanent de votre présence dans la ville. Donc on lui retire cette carte de résident de Jérusalem par la décision de la ministre de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en 2018 est passée à la Knesset une loi modifiant d'ailleurs, en Israël il n'y a pas de constitution, il y a des lois fondamentales. Mm. C'est un peu comme aux États-Unis en quelque sorte. Par rapport aux lois fondamentales édictées et votées à l'occasion de la création de l'État israélien en 1948, en 2018, il vote une loi déclarant Israël, et donc Jérusalem Est pour eux, comme nation du peuple juif, et uniquement du peuple juif.
Oui, il y a quand même eu énormément de réactions à ce moment-là dans le monde.
Exactement.
Parce que c'est de là, d'ailleurs, que des tas de rapports sur la notion d'apartheid
Notamment, il y a beaucoup d'autres aspects pour l'apartheid, mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi je parle de ça ? D'abord parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de réaction, mais ensuite parce qu'il y a eu une décision sur d'autres lois, du fait de l'adoption de cette loi fondamentale. Mm. Et en particulier, une loi sur l'entrée et le séjour, déclarant que les citoyens vivant en Israël, donc pour les Israéliens à Jérusalem-Est inclus, ont un devoir d'allégeance vis-à-vis de l'État israélien. Et donc, la rupture de ce lien invoqué par la ministre valait retrait de la carte de résident de Jérusalem, avec évidemment en toile de fond une possible expulsion.
Et on peut rajouter qu'en juillet 2022, la Cour suprême d'Israël a statué que l'État pouvait vraiment révoquer la citoyenneté des personnes sur la base, on parlait jusque-là de manquement à l'allégeance à l'État d'Israël, là en 2022, c'est sur la base d'un manquement à la loyauté. Donc on imagine,
c'est exactement pareil. Voilà. Peu importe les mots, mais c'est ça, c'est bon, loyauté, manquement, les mots sont dits, c'est exactement ça quoi. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on dit aux Palestiniens que non seulement de Jérusalem-Est, que non seulement ils doivent accepter l'occupation, mais qu'ils doivent dire merci.
Exact.
Et en aucun cas se rebeller ou manifester leur opposition naturellement à cette occupation. Ce qui est quelque chose d'assez énorme.
C'est une façon de museler complètement la parole des Palestiniens.
Voilà. Et qui est arbitraire, parce que comment vous déterminez l'allégeance à un État, c'est quand même assez compliqué. En vérité, c'est pour une loi supplémentaire pour museler, casser, exporter, expatrier, nettoyer Jérusalem-Est de ses habitants palestiniens.
Alors, on va peut-être un peu avancer parce que l'heure tourne. Donc peut-être, donc là on en était à 2020 où on lui supprime. Je crois qu'en 2020, il a eu également d'autres d'autres agressions, enfin sur le fait qu'on lui a aussi interdit d'exercer son métier d'avocat, qu'il n'a plus de sécurité sociale, enfin ce qu'on appelle la protection sociale là-bas. Tout ça, c'est 2020, je pense.
Oui, bah, c'est dans la suite de, voilà. de ces toujours avec en arrière-plan, en France. Où, là-bas, il y a un système de sécurité sociale, on va l'appeler comme ça pour se faire comprendre des auditeurs, obligatoire pour les habitants d'Israël. Et ils lui ont retiré, en pleine crise Covid, sa carte de sécurité sociale. Donc il a fallu qu'on trouve une solution parce qu'il était protégé des autres. Il pouvait attraper non seulement la Covid, mais aussi tout simplement avoir un accident de voiture ou que sais-je.
Enfin, oui,
il fallait trouver un moyen de le protéger. Et ce retrait de carte, pour être effectif, devait avoir non seulement l'approbation et la décision de la ministre de l'Intérieur, mais aussi du procureur général et du ministre de la Justice israélien, lesquels donnent leur accord en octobre 21, c'est-à-dire quelques mois après la décision de Ayelet Shaked de lui retirer sa carte. Donc formellement, il n'a plus de carte de résident, c'est acté selon le droit israélien, évidemment.
Donc on voit l'escalade dans ces années 20-21 et qui vont arriver à sa nouvelle incarcération.
On le pousse.
Et en mars 2022.
Avec cette chose, c'est que en lui retirant cette carte de résident, bien sûr que la menace d'expulsion devenait plus limpide, plus claire, mais aussi il y avait une autre situation qui se créait, c'est qu'il ne pouvait plus sortir.
C'est ça.
Et plus rendre visite à sa famille.
Ah, parce que s'il sortait, il ne pourrait jamais revenir.
Il pouvait sortir, mais il n'était pas certain de rentrer.
Voilà, oui.
Voilà, donc si vous voulez, il y avait des conséquences, là encore, psychologiques, lourdes. Que les auditeurs nous comprennent bien, nous parlons de Salah Hamouri, mais il s'agit des Palestiniens là dont on parle en ce moment.
Voilà,
en
fait, non, mais c'est ce que j'ai dit au début, c'est qu'il est emblématique de l'acharnement.
C'est un cas singulier, que je décline de manière singulière et précise, mais en vérité et sous d'autres formes, c'est ce que vivent les Palestiniens. En tout cas, en particulier ceux de Jérusalem.
Alors, je propose de faire une deuxième pause parce qu'on se rapproche un peu de la fin de l'émission. Donc, on va écouter la deuxième chanson qui est de Francis Cabrel qui s'appelle La Corrida.
Oui.
Voilà. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot pour le choix.
Je l'ai choisi parce que, si vous voulez, il y a pour deux raisons, faire un double clin d'œil. Je veux dire, parce qu'en France, on est extraordinaire. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. On a passé quelques heures à l'Assemblée nationale et sur les médias à nous parler de la corrida. Bon, c'était un petit clin d'œil amusé. Mais aussi, c'est parce que quand on y pense bien, ça, évidemment qu'il ne s'agit pas d'animaux, mais le destin du peuple palestinien est un peu comparable à celui du taureau.
Voilà, donc on écoute la corrida de Francis Cabrel.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête, Andalousie.
Je me souviens. Voilà, je fais quelque chose qui ne devrait pas se faire, c'est de couper la chanson avant la fin, mais nous avons des nouvelles importantes encore à donner sur cette situation et je voudrais quand même qu'on puisse arriver au bout. Donc peut-être, Jean-Claude, si c'est possible, de dire un petit peu, depuis mars 2022, sa nouvelle incarcération et qu'est-ce qui était prévu depuis mars 2022, de nouveau la détention administrative, et puis oui. Ce qui était aussi le fait qu'il avait fait appel de cette décision. Oui. Voilà. Est-ce que c'est possible de redire un petit mot, enfin de parler un peu de sa situation depuis l'année 2022, depuis mars?
Oui. Donc, Salah ne cède pas, malgré cette sécurité sociale, malgré ce retrait de la carte de résident. Et selon les règles israéliennes, il est possible pour lui de faire appel de cette décision devant la Cour suprême, laquelle avait décidé d'examiner le cas en février du mois prochain, de l'année
2023,
prochaine.
2023, oui.
Voilà. Et donc, il l'arrête en mars 2022 pour 3 mois, renouvelés et renouvelables le 4 décembre prochain, théoriquement. Avec cette situation où ma gorge se serre, puisque juste avant que nous commencions cette émission, nous avons appris que dimanche, Salah allait être expulsé vers la France et qu'il mette un terme définitif à cette situation où il ne pourra plus jamais remettre les pieds ni en Israël ni en Palestine. La décision vient de tomber. J'en ai pas parlé avant. Je le dis maintenant pour montrer à quel point, naturellement, on a affaire à des sauvages. Il faut savoir qu'en droit international, les expulsions forcées, c'est le cas,
oui,
ce sont des crimes de guerre. Donc la question maintenant qui est posée devant nous, c'est que vont faire les autorités françaises, si fortes à manifester leur soutien à quiconque se bat contre les crimes de guerre sur le continent européen, que vont-ils faire quand ces mêmes crimes de guerre, la définition s'appliquant en l'occurrence, quand ça se manifeste dans un pays ami qui s'appelle Israël? Donc la question est maintenant posée clairement entre les mains du président de la République. Naturellement, que j'imagine bien, même si le gouvernement n'est pas formé en Israël, que après les élections qui viennent d'avoir lieu, et la présence au gouvernement et déjà la nomination d'un extrémiste notoire, fasciste, suprématiste, absolu, qui s'appelle Gvir, qu'ils ne sont pas absents de cette décision brutale qui vient d'intervenir, puisque ça outrepasse et ça annule le recours déposé, ce qui est absolument impossible en droit, évidemment.
Et là, il a plus de recours possible par rapport à cette décision qui vient de tomber.
J'ai pas suffisamment de recul, puisque ça vient de tomber, pour aller plus dans les détails juridiques, si j'ose dire. Mais en tout cas, voilà à quoi ça aboutit, parce que c'est pas simplement une décision verbale qui lui a été annoncée, et qu'on m'a annoncé depuis Tel Aviv, c'est aussi une décision qui est accompagnée d'une décision de droit, enfin de droit israélien, dont je n'ai pas connaissance et qui est en hébreu, donc il va falloir un certain temps avant que je ne puisse pouvoir dire plus amplement sur les choses. Nous sommes à quelques jours du 4, et donc il m'est bien difficile d'aller plus loin là. Simplement pour vous dire ça, c'est que cette nouvelle qui est latente, qui est présente depuis tellement d'années, Israël a décidé avec ce nouveau gouvernement fasciste de passer à l'acte et donc de chasser de sa terre et de sa ville natale Salah Hamouri.
Et c'était vraiment ce qui était redouté par lui, évidemment, et par toute sa famille et tous ses proches depuis plusieurs années. Et Israël est arrivé au bout, quoi. C'est vraiment cynique et épouvantable, quoi. Vraiment.
C'est terrible parce que vous imaginez bien, il va avoir 38 ans, il a 37 ans, il va avoir 38 ans. C'est sa terre, c'est il est franco-palestinien, bien sûr. Mais il est palestinien avant toute chose. Et comment lui reprocher, quoi, je veux dire, c'est évident. Ses amis, ses habitudes, les coutumes, enfin, que sais-je. Tout ça, tout un monde s'écroule brutalement en lui disant, il n'y a pas en plus d'équivalence des diplômes, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être avocat ici, ça suppose... Enfin bref, ils sont allés jusqu'au bout de la décision qu'ils suggéraient que ça la prenne et que naturellement jamais ils n'auraient pris, parce que pour les Palestiniens, et notamment pour ceux de Jérusalem, il y a un mot d'ordre qui est impératif. Résister.
J'ai envie, Jean-Claude, de lire un petit passage du communiqué que Salah avait fait passer au mois d'août et qui explique vraiment quel était le sens de sa résistance. Donc, ce que je lis est entre guillemets, c'est vraiment les paroles de Salah. La prison est le pire endroit qui soit pour un être humain. Elle nous brise et broie nos rêves, nos aspirations et nos espoirs, tout comme une olive est broyée dans le pressoir à olives. Je sais que l'amour d'une patrie est un amour à sens unique qui n'apporte que peine, douleur et perte. Il m'a volé les plus belles années de ma vie, il m'a volé mon adolescence, ma jeunesse, m'a fait forcer à vieillir beaucoup trop vite. Malgré tout cela, j'adore ma patrie, tout en sachant parfaitement que même en lui donnant tout, elle demandera encore « Que peux-tu donner de plus ?» C'est une équation perdante selon les calculs que font la plupart des gens, et je le comprends. Mais pour moi, la vraie vie n'est pas d'attendre à la gare que le train de la liberté parvienne jusqu'à nous. La vraie vie est d'être dans le train lui-même, peu importe le sacrifice. Et je trouve que c'est d'une force extraordinaire.
Oui.
Voilà.
Il est comme ça là. C'est un homme, un résistant.
Il est entier. Il est...
Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il a été libéré de ces temps de prison, nous avons fait vraiment beaucoup, beaucoup de débats en France, notamment à Marseille, je me souviens.
Tout à fait. Oui.
Il ne se passait pas une seule fois où, après avoir expliqué les conditions... il parle jamais de lui, d'abord, et d'une. Et deux, après avoir expliqué les conditions de détention des prisonniers israéliens, terrible, dans les détails, enfin bon bref, c'est terrible. Il ne se passait pas une fois où une personne levait la main en disant « Monsieur, il n'y a pas de haine dans vos propos. »
Eh oui.
Comment c'est possible? Et Salah avait une réponse qui, moi qui suis plus vieux que lui, m'a donné une vraie leçon de vie. Il a répondu « La haine, c'est un sentiment, c'est affectif. Ça monte et ça descend. Moi, je suis sur des valeurs, je suis sur des principes, et ça, c'est quelque chose de fixe. Et donc, je n'ai pas de haine, je suis sur des principes, sur un combat politique. » c'est assez fabuleux qu'un jeune homme puisse dire des choses pareilles après ce qu'il a subi. Je voudrais dire, si vous permettez, quand même, parce que, bien sûr, là, je réagis à chaud. Je dis que les autorités françaises, on va voir, on va mesurer à quel point et comment elles se situent par rapport à ce cas qui est très, très, très symbolique de la situation du peuple palestinien. Vous savez, j'ai fait un relevé un peu rapide, mais qui n'est pas exhaustif d'ailleurs. Mais la situation de Salah Hamouri viole pas moins de 7 articles de droit international.
Je cite
pas les articles, je cite juste les têtes de chapitre. Pour droit absolu à un procès équitable.
Ouais.
Il ne l'a pas. Droit de se déplacer librement et de choisir sa résidence. Il ne l'a pas. Interdiction de prêter allégeance à une force occupante.
Il en a l'obligation.
Il en a l'obligation. La déportation forcée est un crime de guerre.
C'est ce qu'il va vivre.
Cinquièmement, interdiction de séparer les enfants des parents contre leur gré. Évidemment. Sixièmement, une puissance occupante ne peut appliquer son droit dans un territoire occupé. Et septièmement, nul ne peut être jugé ou condamné deux fois pour les mêmes faits. Or, dans le retrait de sa carte de résident, on argue de toutes les arrestations précédentes que j'ai évoquées en début d'émission. On ne peut pas condamner deux fois quelqu'un pour les mêmes faits. C'est évident. Donc c'est beaucoup.
Ce n'est que depuis 1949, toutes les lois, les conventions internationales qui ont été édictées, Israël n'en respecte aucune. Je veux dire, je crois que malheureusement, il y a, à travers ce cas particulier, on voit quand même comme Israël est complètement en dehors de tout le droit international. Et en toute impunité, puisque personne ne dit rien et personne ne sanctionne.
Voilà.
Oui. Alors c'est sûr que on pensait un petit peu là terminer en donnant une nouvelle parce que avec tout ce qui s'est passé, Salah a quand même été soutenu partout en France et internationalement aussi. Il y a eu des déclarations de l'ONU, il y a eu des déclarations du syndicat des avocats de France. Il a été fait citoyen d'honneur de plusieurs villes. Et puis est tombé aujourd'hui un communiqué de l'ACAT, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, qui informe que Salah Hamouri reçoit ce 1er décembre 2022, donc demain, le prix Engel du Tertre, qui est des droits humains, remis par la fondation ACAT pour la dignité humaine. Placé en détention administrative par les autorités israéliennes depuis le 10 mars, notre compatriote paye le prix fort pour son activité de défenseur des droits humains, un tribut auquel Israël le contraint en violation de sa liberté, de son droit de vivre sur sa terre natale, de sa dignité et de celle de sa famille. Et donc c'est sûr qu'on se disait, en apprenant ça ce matin, moi je me disais, ben évidemment ce prix n'influencera certainement pas les autorités israéliennes. Il nous réjouit et il signifiera surtout à Salah et à ses proches que sa situation est connue et qu'il est soutenu. Sauf que voilà, ce prix semble bien dérisoire aujourd'hui quand on apprend la nouvelle qui est tombée un peu plus tard dans la journée.
Mais tout ça est relatif parce que ça place aussi les autorités françaises devant leurs responsabilités.
Ouais.
Je veux dire par là que jamais, en effet, comme vous l'avez dit, Salah n'a eu un soutien aussi large.
Ouais.
Vous avez parlé d'ACAT, mais il faut aussi parler d'Amnesty International.
Tout à fait.
Trois rapports de l'ONU qui parlent de Salah Hamouri. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU qui parle de Salah Hamouri. Le syndicat des avocats de France. Le barreau des avocats de Nice.
Oui.
Bref.
Oui.
Jamais aussi largement, plein de parlementaires de différentes couleurs soutiennent Salah Hamouri. L'opinion publique, dans une grande partie de celle-ci, soutient Salah Hamouri. Et donc, si vous voulez, on est quand même passé devant une situation. Qu'est-ce que vont faire les autorités françaises et le président de la République en particulier face à la fois à ce crime de guerre, d'une part, et par rapport, d'autre part, à l'opinion publique et à toutes ces associations, etc., qui ne sont pas suspectes d'être partisanes, que sais-je, qui ont pris position. Et donc, il y a là, avec toutes ces initiatives, une interpellation directe, naturellement, vers les autorités israéliennes, mais aussi vers les autorités françaises.
Tout à
que
fait.
Faites-vous
Et je pense
et donc,
que ce sera
là,
aussi...
nous sommes devant une vraie responsabilité. Et quand je dis autorité française, excusez-moi, mais je suis bien obligé de glisser un mot à propos de Marseille.
Et oui.
Je veux dire que ça concerne aussi le premier magistrat de la ville.
Oui.
Aussi.
Oui.
Si proche de la Palestine, si proche de cette mer. Lui aussi, qui interdit deux initiatives d'amnistie internationale.
Non, une, parce qu'il y en avait une qui était à Aix, mais la salle de Marseille,
bon,
voilà, effectivement, qui n'a pas pu.
Bon, c'est pareil, c'est pareil.
Oui, oui.
Comment c'est possible ?
Oui.
Comment est-ce possible, au nom de la liberté d'expression, qu'on interdise à l'amnistie internationale de venir débattre, et donc de manière contradictoire, pour quiconque le souhaite, de cette question ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'il se taise sur le cas de Salah Hamouri ? Là, il va falloir aussi que les responsables politiques à tous les niveaux prennent leurs responsabilités. Il y a bien sûr les autorités françaises qui sont en charge, mais il n'y a pas qu'elles. Il y a toutes seules qui forment le réseau politique français.
Alors, je crois que, Jean-Claude, on va malheureusement être obligé de se séparer dans très
normal.
Peu de temps. Donc, nous ne parlerons pas trop de l'agenda. C'était préférable de laisser la parole aujourd'hui sur cette situation si dramatique. Par contre, je pense que ce serait important que les auditeurs et les associations de soutien restent très vigilants dans les 3-4 jours qui viennent à tout ce qui que le comité de soutien à Salah pourra nous indiquer comme action qu'en tant que citoyen, on peut faire en interpellant nos responsables politiques à quelque niveau que ce soit.
Absolument.
Voilà, donc peut-être qu'effectivement, il y aura des consignes de données.
Il y a une page Facebook qui s'appelle Liberté pour Salah Hamouri, c'est très simple, qui donne toutes les informations les plus chaudes. Celle que je viens de vous donner est déjà en ligne et permet à chacun déjà, comme idée d'interpeller le président de la République tout de suite. Laissez-nous un peu le temps de réfléchir à
tous les
aspects, parce que nous n'avons pas tous les éléments en main encore.
Ouais. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas Facebook, on mettra ça sur le site de Palestine 13 aussi.
Voilà, merci à vous pour cette
merci
émission.
Beaucoup Jean-Claude, et puis vraiment on est de tout cœur avec la famille et avec Salah pour cette terrible nouvelle qui est tombée aujourd'hui.
Mais nous sommes tous de tout cœur avec le peuple palestinien.
Eh oui.
Allez. Au revoir.
Voilà, au revoir. C'est donc la fin de l'émission Une heure en Palestine. Nous nous retrouvons mercredi prochain à 18h pour une nouvelle émission. Au revoir. Bintishalab.